Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous allons commencer notre émission par le journal suivi La Revue de Presse. Et ensuite, nous allons également présenter la mise au point. La rubrique suivante, vous allez écouter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi La Revue de Presse.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre indonésien des communications et de l'informatique nomme Kanular défi de presque tous les pays. Réunion bilatérale entre l'Indonésie et l'Australie discute IA-SEPA. Le gouvernement doit créer la mesure sur la génération des paysans. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le développement de l'information et de la technologie permet aux personnes de communiquer plus facilement. Malheureusement, la condition n'a pas seulement un impact positif, mais aussi un impact négatif sur les articulations de la vie. L'une des plus importantes est l'information frauduleuse de plus en plus répandue dans la communauté. Le ministre de la Communication et de l'Information d'Indonésie, M. Rudiantara, a déclaré aux journalistes, après avoir ouvert la première conférence des relations publiques de l'ASEAN à Kuta Bali récemment, que la condition est un défi pour presque tous les pays dans le monde, y compris l'Indonésie. Pour lutter contre le phénomène, il est nécessaire que les principaux militants des médias fournissent des références d'informations valides et factuelles au public. Les médias traditionnels suivent maintenant faisant une sorte de filtrage. Donc, si vous êtes des nouvelles de terrain, de journalistes à la salle de rédaction, il y a des vérifications et je suis sûr que ce sont les médias traditionnels qui seront une référence par rapport aux médias sociaux. C'est vrai que les médias sociaux sont rapides, mais il n'est pas encore précis. Le ministre Rudiantara a affirmé que le gouvernement a mis en œuvre deux stratégies qui sont considérées comme capables d'éliminer la circulation de l'information sur les faux. Non seulement l'accès limité et blocage du contenu, mais le ministère des Communications et des Technologies de l'Information a également mené l'alphabétisation et la socialisation à la communauté. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, M. Enggartia Stolokita, et le ministre du Commerce et du Tourisme de l'Investissement de l'Australie, Stephen Chiobo, ont tenu une réunion au bureau du ministère du Commerce à Jakarta récemment. Les deux ministres ont discuté du développement de l'accord de partenariat économique global au SEPA d'Indonésie et d'Australie. Le ministre Enggartia Stolokita souhaite que les négociations puissent être achevées à la fin de 2017 et mis en œuvre immédiatement.
Kita mau menyepakati SEPA-nya tahun ini.
Nous voulons nous mettre d'accord que SEPA finit cette année et la réunion est très positive, de sorte que l'accord de la SEPA peut être signé par les deux chefs d'État à la fin de cette année. Le 9e tour de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Australie aura lieu à Bali du 2 au 6 octobre 2017. Le 8e tour de discussion a eu lieu à Bali du 31 juillet au 4 août 2017. Quelques progrès réalisés au cours du 8e siècle étaient entre autres en termes de discussion du texte de l'accord et de discussion sur l'accès au marché dans le domaine du commerce des biens, des services et des investissements. L'âge des paysans nationaux est menacé de vieillissement parce que la plupart des paysans ont 45 ans et plus. Même le résultat du sondage de l'Institut indonésien de sciences, ou LIPI, par l'intermédiaire du Centre de recherche sur la population, a noté que l'âge moyen des producteurs de riz dans trois villages agricoles de Java Central atteint 52 ans et plus, et que peu de jeunes sont prêts à poursuivre l'agriculture familiale. Le chef du Centre de recherche pour la population de LIPI, Madame Haning Romdiati, a déclaré que le gouvernement devait élaborer des politiques susceptibles de soutenir les jeunes agriculteurs. L'agriculture horticole est très prometteuse. Cela signifie qu'elle devrait être maintenue et bien sûr, elle devrait recevoir des facilités soutenues par le gouvernement local. Et une source importante est la disponibilité de terres. La terre agricole appartenant aux agriculteurs ne sont pas petites, mais il peut être emprunté des terres au gouvernement. Mais ce n'est pas un fait individuel. Pour faire une institution agricole, comme par exemple, un groupe de jeunes agriculteurs peut donner des exemples. Je suis sûr que si cela fonctionne bien, d'autres agriculteurs se suivront, mais il faut d'abord en donner l'exemple. Selon Haning Romdiati, le gouvernement indonésien doit encourager les jeunes à pouvoir développer l'agriculture et le village. Selon elle, l'existence de jeunes paysans est importante, notamment pour soutenir la souveraineté alimentaire dans le futur et comme une forme de mouvement de paysans autonomes et à l'ère de la mondialisation. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, nous continuons maintenant notre émission avec la revue de presse et tout d'abord l'éditorial du journal Média Indonesia le mercredi 20 septembre à pour titre Ensemble aider Rohingyas. Aung San Suu Kyi par la communauté internationale est réellement considérée comme ayant toutes les conditions préalables nécessaires pour arrêter la crise dans l'état de Rakhine au Myanmar. La vision de la démocratie est qu'elle a combattu pendant de nombreuses années contre la répression des dirigeants militaires de la Birmanie est en fait une capitale indéniable en tant que chef de facto de Birmanie pour mettre fin au crime humanitaire des Rohingyas. Mais l'arrangement de partage de pouvoir compliqué avec l'armée birmane l'a fait comme coïncer. La clarté était évidente dans le premier discours de Suu Kyi, lié à la crise de Rakhine après beaucoup de silence le mardi 19 septembre. Dans un communiqué, elle a en effet critiqué toutes les violences des droits de l'homme, mais elle n'a pas mentionné aucune allégation de nettoyage ethnique. L'Indonésie est également considérée comme le pays le plus actif pour canaliser l'assistance physique aux victimes de la crise, notamment les réfugiés de Rohingya. Selon Média Indonesia, la tâche actuelle du gouvernement est de s'assurer que l'offre de Suu Kyi de surmonter la crise de Myanmar peut être réalisée tout en continuant d'augmenter l'intensité de la distribution des assistances dans les zones touchées par les conflits. Ensuite, l'éditorial de Quotidien Sindo le 18 septembre a pour titre « L'aéroport vitrine d'État ». L'aéroport international Soekarno-Hatta comme vitrine d'État vient d'être équipé d'un système qui l'équivaut à d'autres aéroports internationaux dans le monde. Le dimanche 17 septembre, on a exécuté le fonctionnement du système automatisé de déplacement des personnes qui par le public connu sous le nom de SkyTrain. Pendant un certain temps, ce SkyTrain ne servira que la connexion des passagers entre le terminal 2 et terminal 3. Le calendrier des opérations est encore limité, soit 17h jusqu'à 10h, et puis 2h jusqu'à 14h, et de 17h jusqu'à 19h. Plus tard, le SkyTrain sera entièrement opéré selon les heures de fonctionnement de l'aéroport international Soekarno-Hatta. Auparavant, les passagers doivent sortir d'abord du bâtiment du terminal, puis utiliser la navette de bus entre le terminal. Le processus est certainement très gênant car il passe par différents points de contrôle et détecteurs de métaux. Maintenant, avec le SkyTrain, les passagers ne doivent pas faire face à tous les tracas. L'aéroport international Soekarno-Hatta sera une belle vitrine pour ce pays. Bien sûr, lorsque cette vitrine réussit, plus de gens seront intéressés à investir en Indonésie ou à dépenser leur argent en voyageant dans ce pays. Le dernier, l'éditorial du journal Republica, le 22 septembre, a pour titre l'année des préoccupations. L'événement de Hijra, qui est ensuite utilisé comme référence dans l'établissement du calendrier Hijri, a fait une leçon précieuse pour les musulmans. L'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans le cas de la Hijra est intemporel, même si des milliers d'années se sont écoulées. Dans le processus, la Hijra montre à toutes les parties sur la préoccupation. Dans ce contexte, Hijra, presque le Médina, accueille avec enthousiasme son frère venu de la Mecque, même ils ont également apporté une partie de sa richesse aux migrants de la Mecque. Les deux groupes sont unis en fraternité, un lien qui continue de se renforcer sous la discipline et l'orientation du prophète Mohammed. Grâce aux soins de ces riches à la fin, ceux qui ont été douafa deviennent des gens qui peuvent payer en zakat et en charité en grande quantité, de sorte que de plus en plus de musulmans sont éloignés de la pauvreté. Une telle préoccupation est également donnée aux frères persécutés. Actuellement, les musulmans de Rohingya, comme par exemple, ils ont besoin de soins de leurs frères dans le monde entier. Ils ont été forcés de se sauver de leur pays en les amenant avec des objets improvisés. Selon le journal Republica, le nouvel an 1439 Hijriya peut être un pas pour que les gens renforcent leur attitude, c'est-à-dire accroître leur souci de faire approfondir leur fraternité, comme en témoignant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à Médina en cas d'immigration il y a des milliers d'années. Chers amis, c'était la revue de presse de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs british du monde entier, voici aujourd'hui dans l'histoire de l'édition 23 septembre. Nous allons commencer le 23 septembre 1932, le royaume de Hijaz et de l'Égypte ont devenu le royaume de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ou le royaume d'Arabie Saoudite est un pays arabe situé sur la péninsule arabique. Désert tempéré, le territoire est principalement constitué de sable du désert avec le plus grand désert d'Europe, Al-Khali. Les Arabes ont dit le mot du désert est Sahara. Les pays frontières de l'Arabie Saoudite et la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Golfe Persique et les Émirats Arabes Unis, Oman, le Yémen et la mer Rouge. Le 23 septembre 1932, Abdul Aziz ibn Saud Abdurrahman, que également connu comme Ibn Saud, a proclamé le royaume d'Arabie Saoudite pour unifier la région de Riyad, Najd ou Nejd, Ha'a, Asir et Hijaz. Abdul Aziz est devenu plus tard le premier roi du royaume, ainsi compris le nom et dérivé du nom de la famille royale saoudienne d'Abdul Aziz Asaud. En chance, le 23 septembre 1973, Juan Perón est revenu au pouvoir en Argentine. Juan Domingo Perón a été général et le politicien argentin. Perón a été élu pour son troisième mandat en tant que président de l'Argentine. La première période de 1946 à 1950, la deuxième période de 1950 à 1955, le 19 septembre 1955, Perón a été rejeté et exilé après que l'armée a organisé un coup d'état du gouvernement. L'exil pendant 18 ans ne se fend pas d'influence parmi le peuple. En 1973, à l'âge de 70, Perón a été réélu en tant que président de l'Argentine pour la troisième fois. On termine le 23 septembre 1991, l'Arménie est devenue indépendante de l'Union soviétique. La République d'Arménie est un pays connu comme l'Europe et l'Asie. Le pays est bordé par la Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran est enclavé du Nakhichevan au sud. L'Arménie est membre du Conseil de l'Europe, les États indépendants à travers les siècles dans la zone de la piste et franchissement de l'Est et de l'Ouest. Il est devenu indépendant de l'Union soviétique le 23 septembre 1991. Les solides auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui, ce soir. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis lointains, veuillez donc écouter maintenant la mise au point. Avec le titre, l'Indonésie et l'OCI encouragent la résolution de la crise de Rakhine à l'ONU. L'Indonésie a rencontré les membres de l'Organisation de coopération islamique OCI en marge de l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York mardi le 19 septembre 2017 pour encourager la résolution de la crise humanitaire dans l'état de Rakhine au Myanmar. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla et la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi représentaient l'Indonésie lors de la réunion du groupe de contact de l'OCI sur la crise de Rakhine. La ministre Retno Marsudi à New York, États-Unis, a déclaré mardi que ceci montrait les inquiétudes de l'Indonésie et le souci de la crise humanitaire qui se produit actuellement dans l'état de Rakhine, dont l'impact doit également être supporté par le Bangladesh. Selon Retno Marsudi, cette crise doit être résolue tout de suite. La réunion a été assistée par les dirigeants des membres de l'OCI de la Turquie, du Bangladesh, du Pakistan, de l'Iran et de l'Indonésie, ainsi que des ministres des Affaires étrangères ou des ambassadeurs d'autres pays membres. Des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des Nations Unies, le Royaume-Uni et des États-Unis ont également assisté à la réunion. L'Indonésie et les pays de l'OCI sont d'accord pour publier un communiqué commun afin que le Myanmar mette fin immédiatement à la violence contre Rohingya. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également déclaré que l'Indonésie avait une grande conscience de la crise de Rohingya dans l'état de Rakhine au Myanmar. Il a expliqué, en tant que pays ami et voisin, l'Indonésie ne peut certainement pas se taire en voyant la situation qui se produit dans l'état de Rakhine au Myanmar. À la même occasion, Retno Marsudi a ajouté que l'Indonésie prendrait des mesures diplomatiques en visitant le Bangladesh et le Myanmar. Pendant ce temps, le sous-ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, A.M. Fahir, a affirmé que l'assistance fournie par le gouvernement indonésien aux Rohingyas à la frontière du Myanmar et du Bangladesh n'était pas une façade, mais le mandat de la Constitution. A.M. Fahir a déclaré mardi qu'il s'agissait d'un mandat constitutionnel. En ce qui concerne la participation à la création d'un ordre mondial fondé sur l'indépendance, la paix éternelle et la justice sociale, c'est la réalisation ou la réalisation de pratique du mandat constitutionnel. Par conséquent, la démarche du gouvernement en matière d'assistance aux citoyens ethniques Rohingyas dans l'état de Rakhine au Myanmar est devenue l'un des efforts pour maintenir l'ordre mondial et de la paix. Le vice-ministre des Affaires étrangères a ajouté que la visite du ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi au Myanmar récemment était une obligation et la direction directe du président Joko Widodo en fonction des préoccupations du gouvernement qui, par conséquent, mettait en priorité l'approche dans la recherche des solutions concernant Rohingya. Auditeurs et auditrices, c'était la mise au point.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter, Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à voyager dans le district de Sidoarjo, Java Est, pour voir le centre de l'industrie de cuir. Sidoarjo est l'un des districts de la province de Java Est. Ce district est très célèbre en tant que centre de l'industrie de cuir, plus précisément la région de Tanggulangin. La plupart des habitants de Tanggulangin sont artisans de cuir. Le centre d'artisanat est situé à Jalan Kludan Raya, Tanggulangin. On peut trouver divers objets en cuir tels que des sandales, des chaussures, des sacs à main, des portefeuilles, des bagages, des vestes, des ceintures et bien d'autres choses. En tant que centre d'artisanat en cuir, Tanggulangin est bien sûr très intéressant à visiter, surtout pour les amoureux des objets en cuir. L'artisanat en cuir de Tanggulangin a été fondé en 1939. À cette époque-là, certains artisans de fabricants de sacs ont commencé à atteindre leurs affaires par la fabrication de sacs et valises. En 1976, on a fondé la coopérative de l'industrie de sacs et de valises ou appelée Intaco. Cette industrie de cuir de tangoulangin existe jusqu'à présent. Il est assez facile à visiter le centre d'artisanat de cuir de tangoulangin car il est situé sur la route de Malang à Sidoarjo et quelques mètres seulement de l'autoroute Malang-Surabaya si vous arrivez par l'autoroute. Il est situé à environ 20 km à partir de l'aéroport international de Juanda à Surabaya. Quand vous entrez dans la zone d'artisanat en cuir de tangoulangin, vous serez accueilli par une rangée de maisons de commerce de part et d'autre de la route Cloudan Raya. Ici, vous trouverez aussi des boutiques de mode qui présentent les derniers modèles. Les divers produits sont proposés à des prix compétitifs entre les magasins. Certains sont relativement peu chers, environ 50 000 rupiah, mais d'autres peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions de rupiah. Selon la taille, et bien qu'elle soit bon marché, les produits sont de bonne qualité. Les produits en cuir de tangoulangin sont connus pour leur haute qualité et leur durabilité. Cette zone artisanale de cuir ne vend pas seulement des produits finis, mais sert également les commandes pour différents modèles et tailles. Si vous voulez commander des vêtements, on prendra vos mesures et vous pourrez choisir votre propre modèle. Vous pourrez aussi passer directement commande à distance où les produits vous seront expédiés à l'adresse que vous demanderez, bien sûr avec un supplément pour la livraison. Cette zone est très bondée de visiteurs. Par conséquent, si vous voulez venir ici, venez pas pendant les vacances scolaires ou lors des jours fériés. D'habitude, les visiteurs viennent des différentes régions du pays et même de l'étranger. C'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons vous présenter informatique hydroponique pour la tomate cerise. Lorsque les terres destinées à la culture sont limitées, le système hydroponique est très approprié à utiliser parce que la culture hydroponique est la culture de la plantation en utilisant des eaux sans utiliser de sol comme milieu de croissance et en mettant l'accent sur la satisfaction des besoins nutritionnels des plantes. La tomate cerise est une forme de variété de tomate qui a une taille plus petite que les tomates en général. La tomate cerise a une taille plus ou moins la même que la cerise. Bien que la taille soit petite, mais ce type de tomate a beaucoup de bons contenus pour la santé, comme le magnésium, le potassium et phosphore. En outre, la tomate cerise contient aussi de faible graisse saturée, faible teneur en sodium et faible taux de cholestérol. Actuellement, les terres agricoles diminuent et se sont érodées par le développement des colonies. Pour ceux d'entre vous qui ont des terres limitées, vous pouvez utiliser le système hydroponique. En outre, il existe déjà un système hydroponique automatique qui est devenu une nouvelle méthode dans l'agriculture de tomates cerises comme une solution de terres limitées. Reginald van der Ixen, étudiant de système informatique au lycée de gestion de l'information et des génies informatiques, ou plus connu sous le nom de Stikom Surabaya, a créé un système hydroponique automatique. Le système hydroponique aide les agriculteurs à optimiser leur récolte. Selon Rigi, le système informatique hydroponique utilise la méthode FUSI pour contrôler tous les actionnaires en temps opportun. Le système informatisé peut faire la cartographie, l'optimisation, l'identification et d'autres capacités dans les plants ou les fruits. Cet outil contrôlera la température et humidité de l'air pour que les plants poussent de manière optimale dans diverses conditions. Hydroponique que Rigi développe est la méthode WIC, soit le système LAX utilisé comme milieu de distribution d'éléments nutritifs dans la plante. WIC est une méthode hydroponique qui utilise de grands réservoirs avec de grands volumes de solutions nutritives, ce qui peut supprimer les fluctuations de la concentration de la solution dans les nutriments. Le nutriment dans cette méthode ne nécessite pas de circulation, par conséquent, peut réduire la dépendance à la disponibilité de l'énergie électrique. La simplicité est ce qui rend une telle technologie facile à utiliser par les agriculteurs. Chers amis, c'était la rubrique L'Ironie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie, voici le magazine de musique édition de vendredi. Et pour ce soir, le rythme de Dangdut. Et avec la chanteuse Camelia Malik. Vous avez... Camelia Malik, elle est très connue quand, avec son époux, Reynold Panggabean, fondé le groupe Tarantula. Auparavant, aux années 80, Mia, le nom populaire de Camelia Malik, pense que sa voix n'est pas si belle. Mais son mari, Reynold Panggabean, la supporte toujours avec le groupe Tarantula. Alors, son mari a composé des chansons qui sont liées avec le caractère de voix de Mia. Plus tard, la chanson Colek Colek est publiée, qui s'accorde avec la voix de Mia. Bon, chers amis, allez écouter la chanson de Camelia Malik avec la chanson Colek Colek. Bonne écoute. Chers amis, vous venez d'écouter la chanson Cholak Cholak. Et vous avez, grâce à cette chanson, Camilla Malik avec le groupe Tarantula sont populaires dans le monde musical indonésien. De plus, on peut égalité ou égal, son nom est similaire avec le légendaire de dangdut Elvy Sukaesih et Roma Irama. Camilla Malik est très douée de danse jaipong, c'est-à-dire la danse traditionnelle sundanese. Elle mixe le rythme de dangdut avec la danse jaipong. C'est pourquoi le style de Camilla Malik est très vivant et différent que les autres. Avec son groupe, Mia a fait le tour à l'étranger comme à Tokyo au Japon. Cependant, le Tarantula propose le nouveau genre musical car il mixe et adopte le jazz, pop, rock et le dangdut dans sa musique. Camilla Malik est d'origine la famille qui aime de l'art. Son père, Jamaluddin Malik, est cinéaste ainsi que musicien. Mais Mia est plus célèbre comme chanteuse ainsi que diva de dangdut. Bon, chers amis, allez écouter la chanson de Mia intitulée Kalangkang Cinta. Bonne écoute. Chers amis, avec cette chanson, Camélia Malik gagne le grand succès. Et puis, elle joue le rôle dans le film. Mais hélas, elle a du succès dans sa carrière, dans la musique, mais sa famille est triste. Plus tard, elle se divorce avec son mari, Reynold Panggabean. Bien que maintenant, elle se présente rarement au public, mais elle se présente quelquefois au programme à la télévision. Chers amis, c'était l'histoire de Camélia Malik. Et avant de vous quitter, allez écouter d'abord les deux dernières chansons de Mia, intitulées Raba Raba et Segudang Rindu. Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Thank you. Angin telah membelai rerumputan, bulan bersinar tanpa bintang. Engkau pergi tanpa pamitan, hampa diriku kau tinggalkan. Kau ingkari janji setiamu, kau dustai perasaanku, suasana hati kini telah pudar, tak seperti dulu yang indah. Aku sendiri, biar-biarku sendiri, biar-biarku sendiri, dan biarlah
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.